Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendu compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Avec Dessy, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Simon Dutin, avec Damien Périnel. Dans notre petit générique, vous avez entendu Didier Deschamps dire « Vous en faites pas, mon animal fétiche va revenir ». Peut-être que si l'Euro est reporté, on pourra dire que son animal fétiche est revenu, vu l'état actuel de l'équipe de France, les nombreux blessés.
Julien Cazard a bien résumé la situation hier soir, en effet.
Exactement. Ah ouais. Sacré Dédé. Alors, évidemment, l'after ce soir parle de l'arrêt du foot en France, tout à l'heure en Europe, ouais, avec les drôles de l'âme. Daniel, on a notre invité qui est là. J'aimerais qu'on accueille David Guillon, qui est l'entraîneur du Stade de Reims. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Comment allez-vous gérer avec vos joueurs les jours qui viennent?
Ben, c'est ce que je leur ai dit ce matin. On va attendre mardi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que mardi, l'UEFA va se réunir et puis prendre des décisions, notamment certainement libérer des dates suite au report de l'Euro et derrière. La Ligue de football professionnelle va elle aussi se réunir et puis elle va certainement, suite à la réunion de l'UEFA, déterminer peut-être
une date de reprise.
Oui, voilà, c'est ça.
Ou ah, ça sera peut-être tôt quand même. Hein.
Non, la date de reprise peut-être pas, mais en tout cas, si l'Euro est reporté, on sait déjà que si l'épidémie se calme, il y a la place pour finir éventuellement de mai à juin.
Voilà, c'est ça. Donc on en saura un peu plus. Donc j'ai dit à mes joueurs que j'ai laissé en week-end prolongé et puis que mercredi matin, on se revoyait suite, bien sûr, aux différentes réunions des instances.
Vous n'avez pas peur qu'il y en ait deux, trois qui prennent des jets pour aller je ne sais pas où
le
week-end?
Oui, c'est exactement le problème qu'on peut rencontrer. Donc j'aurais demandé de rester sur Reims et puis de limiter leur voyage et puis éviter de prendre les transports de façon à ce qu'ils ne soient pas noyés avec la population.
Bon, un petit week-end à Reims sans match, c'est pas désagréable.
Non, il y a de quoi faire, je vous rassure.
Je suis pas sûr que beaucoup de vos joueurs aient déjà fait un week-end complet à Reims sans match, mais.
Si, j'ai des joueurs sérieux.
Alors, nous récemment, on a été invités à visiter les caves et tout, donc maintenant on connaît.
On s'est régalé.
C'était parfait. On peut leur donner conseil.
Mais je suis pas sûr que David Guillon souhaite que ses joueurs aient visité les caves ce week-end non plus.
Et visiter, ça veut pas dire boire, on n'avait pas bu, nous.
Bah mais dans les cas, rien qu'à respirer, t'es bourré, tu rigoles ou quoi?
Est-ce que d'office, l'entraîneur de Reims, ça n'a rien à voir, ma question, pardon, est-ce que d'office, l'entraîneur de Reims va visiter le patrimoine historique de la ville et notamment le Champagne?
Bon, j'ai pas attendu quand même que le championnat s'arrête pour aller visiter des caves de Champagne.
Mais c'est très important pour un coach de s'imprégner du contexte.
Bien compris.
Donc, on a compris. Voilà.
Alors tout de même, il y a différentes stratégies, David Guillon. Il y a des clubs qui ont laissé carrément une semaine de vacances. Qui ont dit bon ben revenez dans une semaine les gars, c'est le cas de Toulouse par exemple. À Toulouse, ils ont dit ben revenez samedi prochain.
Ça fait un moment qu'ils sont en vacances.
Bon peut-être.
Même des grands clubs européens.
Hein. À Paris, ils sont pas convoqués avant le 22 mars aussi à l'entraînement.
À Paris, milieu de semaine prochaine. Il y a des clubs qui disent, alors c'est le cas, tu m'es sorti de la tête, je crois que c'est à Dijon. Là ils ont dit les gars, vous venez habillés en tenue de footeux, vous prenez pas de douche, vous ne passez pas par les vestiaires et vous repartez sans douche. Voilà.
Ouais.
Bon, il y a différentes stratégies, quoi, en fait.
Il y a différentes stratégies, mais bon, on se doute bien qu'on est parti, pour quelques semaines. Donc, c'est vrai que là, moi, j'ai dit que je l'ai recontacté, mais je vais peut-être, suite à ce qui va se passer mardi, leur laisser au moins la semaine, parce qu'après, vous vous doutez bien que c'est pas facile à gérer, puisqu'on sait pas quand est-ce que la reprise du championnat va se faire, et puis tenir les joueurs sans compétition, c'est seulement. Impossible parce qu'on se nourrit de la compétition et on s'entraîne pour le match et on s'entraîne pour une échéance. Donc aujourd'hui, s'entraîner pour pas d'échéance, ça n'a pas de sens.
Justement, par rapport aux échéances et à la compétition, est-ce que vous partez plus pour le moment comme une préparation estivale, c'est-à-dire pendant la préparation vacances, on va dire, avant la vraie reprise fin juin, ou vous continuez donc là à faire les entraînements jusque, enfin non, justement, vous reprenez peut-être mardi ou mercredi, et puis vous leur faire fête du ballon ou des choses comme ça. Comment ça se passe?
Ça va être toute la problématique parce que, comme je viens de vous dire, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas, on s'entraîne pour quand.
Ben, et pourquoi.
Et c'est vrai aussi que la problématique, ça va être maintenant de faire une préparation, non pas comme on a l'habitude de faire pour tenir au moins, un semestre, mais là, ça va être une préparation pour être performant de suite et pour seulement 10 matchs et 2 mois. Donc la préparation est complètement différente aussi parce qu'il va falloir être très performant sur 2 mois et puis 10 matchs. Mais quoi qu'il en soit, il me semble que durant la reprise, donc peu importe le report du calendrier, je pense que il va y avoir de l'équité, puisque hormis Paris et Strasbourg, que je peux comprendre puisqu'ils ont un match en moins, mais tout le monde sera sur le même pied d'égalité avec cet arrêt là aussi.
Alors une dernière question, parce que bon, on anticipe un peu, mais enfin, si on a une saison qui finit au 30 juin, ça veut dire pas d'intersaison en fait, parce que derrière le championnat, il va forcément reprendre en août, donc on va accumuler les problèmes en cascade derrière quand même, non?
Ouais, c'est vrai que je vois pas comment on peut derrière reprendre plus tard, parce qu'il y a encore des échéances et puis il y a un calendrier très 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 serré. Alors c'est vrai que là actuellement on a quelques moments de congé, et je pense en effet que notre trêve estivale va être très très courte.
Parce vacances
que,
décalées pas, quoi, en gros. Vacances,
voilà, ça,
ou alors
comment,
tu supprimes ta trêve hivernale.
Ouais, je vois pas comment le championnat il va pouvoir reprendre beaucoup plus tard, quoi.
Ouais. Ou alors autre solution, si jamais on se rend compte qu'on peut pas reprendre avant mi-mai, c'est carrément dire aux joueurs, très bien, barrez-vous un mois, et après on enchaîne, quoi. On fait la fin de saison, puis la suivante.
Voilà, c'est juillet.
Mais ouais. Justement, David, vos joueurs, comment ils acceptent la décision? Comment ils l'ont reçue? Est-ce que eux, ils auraient préféré jouer à huis clos comme le souhaitait par exemple Didier Quillot, ou est-ce qu'ils comprennent cette suspension et ils acceptent et préfèrent jouer lorsque les stades seront à nouveau ouverts au public?
Non, on est tous là-dessus, on est tous sur la même longueur d'onde. Voilà, on voit pas d'avantage au huis clos. C'est pas le football, quoi. Le huis clos, c'est des joueurs, un ballon, du bruit et des échos, c'est tout ce que c'est, quoi. Voilà, moi je vois pas l'avantage au huis clos. Le seul avantage éventuellement que je vois, c'est que on pourrait entendre enfin les arbitres, c'est tout, quoi.
C'est vrai. Depuis le temps qu'il faut leur mettre des micros aux arbitres, ça réglerait plein de problèmes, plus de mieux que la VAR.
David Guyon, c'est la troisième dernière question. Je pense qu'après, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais on peut pas vous lâcher sans vous demander, parce que ces prochains jours, beaucoup de gens vont en parler. Mais si jamais par malheur, ça devait se poursuivre et que les compétitions ne pouvaient pas aller à leur terme, quelle est la meilleure des propositions? Celle de Jean-Michel Aulas, qui fait déjà grand bruit, on prend le classement de l'année dernière, ou on prend le classement actuel comme il est et basta?
Non, mais il y a déjà une chose, c'est vrai qu'on parle du calendrier, du report, d'arrêter, mais je pense aussi qu'il ne faut pas tomber dans l'indécence, hein. Je veux dire, aujourd'hui, le football, c'est clair que c'est un symbole fort, mais bon, il y a une crise sanitaire que l'on vit, qui est très 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 importante, et il faut pas tomber dans cette indécence là. Il y a des parents qui vont devoir garder les enfants, il y a des seniors qui vont être confinés dans les EHPAD et tout le monde est impacté. Donc bon, voilà, je pense que il faut aussi remettre les choses à sa place.
Et l'indécence dont vous parlez, c'est l'interview ce soir du président de l'OL à ce moment-là de la saison dans Le Monde pour dire ça. Pour dire si
on est le sport le plus populaire en France. Je viens comprendre. On est
ça donne une image terrible.
Par rapport à ce que vivent la majorité des gens, je pense que c'est indécent de parler de nous comme ça, quoi.
Merci David Guillon.
Merci.
Je vous remercie.
Et bon, du coup, bon week-end. Hein.
Merci.
Long week-end.
Bonne soirée.
Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage et puis bonne créativité pour essayer de trouver des sujets pour parler, parce que ça ne doit pas être facile.
Mais vous n'en faites pas. On va peut-être même consacrer les émissions à l'épopée européenne de Reims. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il y a quelques années. Salut David, à bientôt.
Allez, merci. Au revoir.
Il est assez classe parce qu'il aurait pu dire, attendez, on stoppe le championnat maintenant. Nous, on est en Europa League, les mecs, on est cinquième. Donc,
non, mais encore une une fois, on revient. On est d'accord sur ce qu'il dit en fait. Et oui, c'est, faisons pour un peu de décence, un peu d'humilité. Et...
Dans ce débat, il va y avoir juste un truc aussi à prendre en compte, c'est que si ça va pas à son terme en France,
par oui, Daniel se balade avec son gel hydroalcoolique à la main. On le voit à la télé depuis tout à l'heure.
Il y aura les mêmes questions se poseront ailleurs, et les solutions que retiendront les autres auront également une influence sur ce que nous on fera. En Allemagne.
Parce que là, l'UEFA ne peut pas intervenir.
C'est le message que veut faire passer l'association.
Simon.
Non, c'est pour compléter ce que tu dis, c'est le message que veut faire passer mardi prochain l'association des clubs européens en disant, les gars, si on pouvait se mettre d'accord pour avoir les mêmes solutions dans tous les championnats, ce serait.
Oui, parce que si les Allemands si certains Allemands disent la même chose, Colas, eh bien, il dira, ah bah tiens, eux, ils décident la même chose. Sûr. En Italie, si de leur côté, ils veulent faire une sorte de play-off, tu vois. Après, les gens seront légitimes à dire bah là-bas, ils ont fait ça, c'était mieux, ça m'avantageait moi. C'est pour ça que...
J'ai un doute sur l'unanimité. Hein. Franchement, ça n'arrive jamais.
Mais c'est un des objectifs de la réunion. En tout cas, ils vont essayer de se mettre d'accord
Franchement, sur la solution. Moi, on m'a dit aujourd'hui, vu la situation critique partout, il y a une volonté de l'UEFA et des patrons de Ligue d'arriver à une union sacrée. S'ils n'y arrivent pas, et que les petits, c'est pas des petits intérêts économiques, c'est des gros intérêts économiques font qu'il y a des discussions interminables sur la meilleure solution. Là, ça va être terrible.
Messieurs, j'aimerais qu'on accueille José, qui est supporter marseillais, qui patiente depuis un moment, que je remercie d'ailleurs d'avoir patienté. José, bonsoir.
Bonsoir.
Salut José.
Bonsoir.
Salut. Tu voulais réagir à la proposition de Jean-Michel Aulas?
Oui, alors déjà, je suis plutôt d'accord avec vous. Je trouve complètement indécent ces propos. Ça, c'est la première chose, compte tenu du contexte sanitaire actuel mondial. Deuxièmement, je trouve que la fédération n'a pas encore pris de décision. Donc, je vois pas pourquoi ils commencent à parler alors qu'il n'y a pas de décision de la fédération. Donc, j'aurais pu comprendre qui s'exprime suite à une décision de la fédération qui ne convienne pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision.
Mais attends, José, excuse-moi, mais là, tu te trompes. Parce que d'abord, ce n'est pas la Fédé qui décide de ça.
C'est qui décide?
Et c'est la Ligue.
Oui, enfin, la Ligue. Donc
oui, mais attention, José. En fait, c'est la Ligue, il faut savoir que c'est une émanation des clubs. Donc, en aucun cas, c'est la Ligue qui va donner la solution. La solution, elle sortira d'une réunion où seront présents tous les représentants des clubs, et que là, cette décision ressortira de tractation, de négociation, où la majorité l'emportera. Donc, lui, en faisant ça maintenant, il met son opinion en avant pour qu'elle soit suivie par d'autres, et parce que certainement en coulisses, il a déjà bossé pour convaincre d'autres mecs de se mettre de son côté pour obtenir une majorité. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas le président de la Ligue, le DG ou la présidente qui vont dire tiens, on fait ça. Tu vois, c'est pas comme ça que ça va se passer.
Oui, ben bien sûr. Et moi, ce qui me gêne, c'est que en fait, moi, c'est ce que je disais en off. Ce qui me gêne, c'est que on connaît un petit peu Aulas. Il parle jamais pour rien dire. Hein. C'est toujours de la com. Donc les phrases, elles sont toujours bien pesées. Il les a bien réfléchies. Hein. Il a pas sorti ces phrases là comme ça. Déjà, il devrait respecter la vérité du terrain. Aujourd'hui, il a raté sa saison, il faut qu'il assume. Effectivement, les enjeux économiques, je peux les comprendre, comme disait le supporter Lionel. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on a entendu le président Amiens parler? Est-ce qu'on a entendu le président de Toulouse parler? On fait quoi de Lorient? On fait quoi
de Lorient? Le président de Toulouse, on l'entend jamais, donc là, je pense pas qu'il va parler maintenant.
Non, mais qu'est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de ces gens-là? Parce que l'économie, à ce moment-là, elle est valable pour tout le monde.
Bien sûr.
Et comme tu le disais tout à l'heure, on a déjà vu dans plein de sports. Effectivement, aujourd'hui, tu me dirais, on joue à la 5e journée. Effectivement, on pourrait remettre en question tout ça, mais on est plus vers la fin de la saison que le début de la saison.
C'est vrai.
Donc moi, il me paraîtrait complètement logique de geler cette situation et de dire.
Et tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi, José, il y aura ces discussions là? Parce qu'en fait, et malheureusement, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire.
Bien sûr.
Il n'y a aucun point de règlement qui prévoit.
Exactement.
Ça. Et comme aucun point de règlement ne le prévoit, ça va donner lieu à toutes les discussions et toutes les tractations possibles pour trouver une solution qui n'existe pas. C'est ça qu'il faut que tous on ait en tête.
Et qui fera jurisprudence aussi éventuellement dans le futur.
Souhaitons que ça ne se reproduise jamais.
Pour les prochaines pandémies.
Mais regardez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et on l'a déjà vu dans plein d'autres sports, On a déjà annulé des étapes de rallye parce que les conditions le permettaient pas. On a déjà annulé des étapes, enfin des slaloms parce qu'il y avait trop de neige.
T'as raison.
Ils ont annulé les championnats du monde de féminin de curling aujourd'hui. J'ai vu passer ça. Regardez, donc si on annule le curling, on annule le foot.
Regardez notre champion de ski qui était très bien placé. Il est deuxième.
Alexis Pinturo.
T'as raison. Très bel exemple.
Lui, il a été humble. Il a dit, c'est comme ça. Effectivement, il restait encore, je crois, 10 courses à faire. Et je finis deuxième. C'est dommage. J'aurais pu finir champion du monde parce qu'il en avait les capacités. Et le gars, il est humble et il s'incline face à une situation qui dépasse le monde du sport.
C'est le sport, quoi.
Il y a un exemple qui est absolument génial. Oh là là, j'ai un énorme trou de mémoire, mais tout le monde va m'aider sur Twitter et tout. C'est le championnat du monde de Formule 1 avec Didier Pironi. Au début des années 80, où après un accident, il y a eu moins de courses et en fait, il a pas pu être champion du monde à cause de ça. Et il n'a jamais pu être champion du monde de Formule 1 alors que cette année, on pensait qu'il le serait. Et voilà, et ça l'a pas empêché de rester dans la légende d'ailleurs, Didier Pironi.
José, merci en tout cas.
Merci à vous. Merci les gars.
Bonne soirée, à bientôt dans l'after. Les propositions commencent à tomber, hein. Proposition de sujet pour l'after dans les jours qui viennent. J'ai Sam qui me dit, il faut que vous invitiez chaque jour un supporter d'un club de Ligue 1 et lui donner la parole. On pourra parler de tous les clubs, dit Sam. J'ai David qui me dit, moi je veux un sujet sur les nouveaux marchés du foot, un sujet sur la régulation des agents, un autre sur les droits des contrats, un autre sur les matchs à avoir vu absolument dans sa vie. Je veux les faits marquants de chaque décès. Les propositions, ça tombe dans tous les sens là. Aurélien me dit, moi je veux un after entier spécial MLS. Il y a énormément de choses à raconter.
Spécial quoi?
MLS.
Ah oui, Damien, pardon.
Cela dit, tu rigoles, mais raconter la nouvelle équipe de Beckham là, à Miami, les nouvelles franchises.
Puis, c'est l'histoire de la Ligue fermée.
Thierry Henry, il y a plein de trucs là.
Tu vois, par exemple, là, sur une Ligue fermée, dans un cas comme ça, je te garantis que là, ils sont tous d'accord, les présidents de club.
Ils feraient quoi, tu penses?
Ils ont suspendu aux États-Unis.
Ouais, ils suspendent tout. Et puis, de toute façon, eux, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, il n'y a pas forcément.
Mais il y a aussi des enjeux d'être champion.
En soi, les retombées économiques. C'est une ligue fermée, c'est des propriétaires. T'as 20 potes, ils sont là et ils mettent la même somme d'argent. Et puis voilà, il y en a un qui va gagner peut-être 200 000 dollars de plus et de moins. Voilà, ça change.
Là où José avait raison tout de même, c'est que certes, il y a des intérêts économiques. Pour l'instant, il y a une urgence sanitaire. Il va rapidement y avoir une urgence économique pour certains clubs. Il y a beaucoup de clubs dont les salariés sont beaucoup plus menacés que ceux de l'Olympique Lyonnais. Tout de même, il faut le rappeler parce que Olas, il va nous dire que effectivement, il y a beaucoup d'oseille en jeu. Il y a des clubs en bas de tableau en Ligue 1 qui sont, à mon avis, qui ont beaucoup plus de raisons d'être inquiets que Jean-Michel Olas si la saison ne devait pas aller jusqu'à son terme. Donc, faut pas non plus nous prendre pour.
Mais là, on parle de la Ligue 1, mais la Ligue 2, c'est la même chose en fait. Si ce que tu vas appliquer avec la Ligue 1, tu vas être obligé de l'appliquer en Ligue 2 aussi.
Oui, et puis à toutes les descentes derrière.
C'est ça. Donc, tu vas impacter pas que la Ligue 1.
Exactement, même tous les clubs amateurs. On reçoit beaucoup d'appels d'ailleurs de joueurs amateurs qui veulent témoigner. Pardon, mais le mec qui joue en deuxième division de district, ça n'existe plus, c'est plus maintenant, en départemental 12, là, je sais pas quoi, je sais pas comment on dit maintenant. Lui aussi joue sa montée, hein. Il veut savoir comment va se terminer son championnat. Bon, c'est évidemment, c'est pas la même.
Après, c'est la
même enjeu, mais
là, c'est la Fédé qui décidera de ça.
Dans quelques instants, on est de retour avec Dominique Courdier, donc qui lui va nous parler de
l'histoire
à l'UEFA. Et puis on continue à prendre vos propositions. Et puis une info qui vient de tomber aussi à Troyes, le club communique un joueur de l'effectif pro plus un joueur du centre de formation ont été testés positifs au coronavirus. Et donc ce soir, ils sont évidemment confinés. A tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à minuit, on ira faire un tour d'Europe également, tout à l'heure avec ton drôle de l'âme, pour prendre les dernières nouvelles un peu partout. A tout de suite.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là avec Daniel Riolo, avec Damien Périnel, avec Simon Dutin et avec Dominique Courdier qui nous rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Dominique, pour ceux qui ne te connaissent pas, longue carrière de journaliste, notamment à France Foot.
À l'équipe et à France Football.
Voilà, les deux. Et aujourd'hui, donc, tu t'occupes d'un site.
Voilà, j'ai créé une agence d'information destinée aux décideurs du foot qui s'appelle News Tank Football. Et voilà, on fournit toute leur formation non sportive, pas les résultats et tout ça, mais tout ce qui entoure le football. Et ça concerne les tribunes qui aujourd'hui sont vides. Et voilà.
Attends, pour qu'on comprenne, donc tu bosses avec les dirigeants, quoi.
On est en contact avec eux. On leur fournit de l'information puisqu'on s'adresse à des. On abonne, disons, les clubs, les instances. La FIFA fait partie de nos abonnés.
C'est une sorte de l'aide professionnelle
aujourd'hui,
en fait.
C'est le Real Madrid.
Ah oui.
Parce qu'on fournit en français et en anglais. Et le Real Madrid est abonné à notre service en anglais. C'est notre plus gros abonné aujourd'hui.
Étonnant.
On a une petite start-up.
Il nous avait pas dit Franck Hermel qu'il avait abonné le club à
On a une petite start-up française, mais qui fournit de la formation économique à Manchester United, au Bayern, à la Juve, à la FIFA, à Auréal, au Barça.
Bah, chapeau.
Au PSG, etc.
Au club français aussi, du coup, quand même,
une
j'imagine.
Une bonne majorité des clubs français.
Et de, bon. Depuis combien de temps
On a créé ça en 2013. Notre premier abonné, je lui rends honneur, quand même, c'est le LOSC. Il s'est abonné, on a gardé la date, on l'a gravé dans le marbre. 27 août 2013, le LOSC s'abonne, c'est notre premier abonné.
Il est toujours abonné ?
Il est toujours abonné, même s'ils ont changé de propriétaire depuis.
C'est bon signe, alors.
Voilà.
Alors, Dominique, du coup, évidemment, tu connais très bien les arcanes du football européen. Mardi, il y a cette fameuse réunion dont on a parlé, là.
Capitale, réunion.
Capitale. En fait, bon, évidemment, on n'y sera pas. D'ailleurs, personne n'y sera, puisque vraiment, ça va se faire par...
Ça va se faire par... C'est une vidéoconférence.
Vidéoconférence.
Hein, vidéoconférence. Voilà.
Oui, parce que c'est...
Grosse organisation, hein, parce qu'il y a non seulement l'UEFA... Il y a les 55 fédérations nationales qui appartiennent, qui relèvent de l'Europe. Il y a le comité exécutif de l'ECA, c'est-à-dire l'association des clubs. Il y a le comité exécutif de European Leagues. C'est l'association qui réunit toutes les ligues nationales.
Et comment on fait par vidéo avec autant de gens?
Ça va durer 3 jours.
Ah non, mais il va y avoir c'est une grosse organisation, mais enfin au niveau de l'UEFA, c'est quand même pas énorme.
Ils savent, c'est plus facile
combien,
à organiser qu'un congrès.
Personnes, ça?
Eh bien, disons que le ça représente en tout, il y aura plus de 100 personnes.
Mais comment, et donc il ne peut pas y avoir d'échange?
Ah, il va, bah, il y aura des interventions.
Des temps de parole.
Tout ça va être réglé un peu comme un colloque, quoi. Hein.
Ça, c'est intéressant parce que
ce genre de choses.
Sur les 100, on imagine qu'évidemment, Agnelli, patron de la Juve, aura plus tendance à intervenir que le président de la Fédé.
Alors, Andrea Agnelli, qui est le patron de la Juve, il y a un double titre. Parce qu'il est président de l'ECA, qui est l'association des clubs européens, et il fait partie du comité exécutif de l'UEFA en tant que représentant de l'ECA. Donc, il y est plutôt deux fois qu'une, lui.
Avec Nasser.
Avec Nasser, qui est l'autre membre de l'UEFA, représentant de l'ECA. Et il a des liens très forts, on le sait, on l'a dit, avec Alexander Šeferin, qui est le président de l'UEFA.
Voilà. Un homme qu'on aime bien parce qu'il commence à se poser des questions sur la VAR et il a bien raison. Mais c'est pas le sujet du soir. Non, moi j'aime bien Šeferin. Il est contre la Ligue fermée, il est contre le VAR, moi j'aime bien. Alors, quels sont les hommes qui vont être vraiment influents? Parce que c'est ça, en fait, qu'il faudrait qu'on sache pour essayer d'anticiper un peu les choses. Et vraiment, les gars qui auront la parole et qui auront du poids dans la décision finale.
Après, qui on peut faire le lobbying?
Sont puissants. Ben, l'UEFA, qui est puissance organisatrice et qui organise à la fois les Coupes d'Europe et l'Euro 2020. On sait bien que l'Euro 2020 sera au centre
et cette
des...
Cette année, c'est le cœur des discussions qu'on va porter là, sur la volonté de terminer les compétitions européennes.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'on fait
d'abord les hommes d'influence, là.
Voilà, alors l'UEFA, chez Ferry, sa garde rapprochée. L'ECA, très puissante, avec à la fois, vous parlez d'Agnelli, vous parlez de Nasser, Jean-Michel Aulas, hein, qui fait partie des membres fondateurs de l'ECA. Et puis ensuite, évidemment, les ligues, les cinq grosses ligues. Hein, il y a le top 5, donc la Ligue française et surtout ses quatre voisines.
Donc là, on aura, la Ligue française sera représentée.
Ah, bien sûr.
A priori, c'est qui, par qui? Par Didier Quilleau ou Nathalie Boulle-Latour?
Oui, bien sûr. Didier Quilleau, quand il s'agit de... Il y a une répartition des tâches qui est assez simple à la Ligue. Hein, lorsqu'il s'agit de business, c'est Didier Quilleau qui est directeur général exécutif qui monte au front.
Donc, Javier Tebas pour l'Espagne.
Oui,
Tebas.
Tu fais une visioconférence comme ça, t'as pas d'avoir un problème de ligne, hein, chez toi. Merde, Internet qui décolle.
Ah oui, là, faut que ça soit
bétonné. Hein.
Alors, est-ce qu'on peut quand même... Parce que c'est vrai que c'est une grosse organisation, ça va pas durer des heures. Donc, et c'est souvent comme ça que ça se passe, on peut imaginer qu'il y ait des discussions qui se fassent en amont entre les décideurs, les vrais décideurs qu'on a identifiés là, pour arriver à cette réunion et que cette réunion serve en fait finalement de chambre d'enregistrement, non ?
Oh, ça, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est possible, évidemment, que l'UEFA arrive avec une idée en tête. Évidemment que l'ECA arrive aussi avec une idée en tête et les grandes ligues ont aussi leurs idées en tête. Alors, tout ça doit... Je pense pas que tout soit réglé avant la réunion. Et je pense pas que ça soit aussi rapide que vous le dites. C'est possible que ça dure des heures. Parce que 55 fédérations, je pense que même les petites fédérations voudront intervenir une fois ou l'autre pour placer leur grain de sel dans la discussion. Donc ça risque de prendre du temps. C'est sûr qu'il y a une idée générale. L'UEFA, son idée, c'est absolument de mener à bout ces compétitions européennes.
Ça, c'est vrai.
Elle veut que la Ligue des Champions et l'Europa League puissent aller à leur terme.
Même s'il faut trouver des formules et être créatif avec la fin des allers-retours.
Exactement. Éventuellement, des tours qui se joueraient sur un terrain neutre, sur un seul match.
Ou une sorte de Final Four aussi. Tout sera envisagé pour que ça aille au bout.
Mais voilà. Qu'on aille au bout, qu'il y ait un trophée, qu'il y ait un vainqueur et que le palmarès soit complet. Ça, c'est
est-ce que ça peut, Dominique, est-ce que ça peut passer au-dessus, en termes de priorité, des ligues nationales? Tu vois, est-ce que, par exemple, si demain il y a un choix à faire entre finir la Ligue 1, la première ligue, et finir la Ligue des Champions, ce sera la Coupe d'Europe qui sera prioritaire?
Bah, alors, c'est là qu'il va y avoir bagarre, parce que les ligues veulent aussi que leur compétition se termine. Elles se terminent dans de bonnes conditions. Mais ce qui rend la situation complètement folle, c'est que aujourd'hui, la crise qu'on traverse, on imagine tous que, ah ben oui, d'ici fin avril, ce sera terminé, donc début mai, on reprend, on repart avec un mois et demi de retard, on décale tout d'un mois et demi et tout va bien. C'est pas sûr du tout que dans un mois et demi, la situation soit réglée, qu'on puisse repartir. Donc, mardi, peut-être qu'il pourra y avoir des idées qui se dégagent, mais qu'après, on sera quand même à la merci du virus et que c'est lui qui est le vrai maître du calendrier aujourd'hui. Et on peut décider quoi que ce soit mardi et ensuite être confronté aux faits dans quelques semaines et que ce soit complètement impossible à accomplir.
Bon, aujourd'hui, tout le monde parle du report de l'euro d'un an. Comme si c'était un truc qui allait être acté de façon assez naturelle. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il faut quand même rester prudent?
Alors, faut rester extrêmement prudent. D'abord, il y a évidemment le virus. Un scénario selon lequel tout repartirait début mai, ça, on n'en est pas sûr du tout. L'UEFA et le CA pensent pouvoir faire d'une pierre deux coups. Se dire, on termine nos compétitions, on place la FIFA qui, en 2021, organise une nouvelle Coupe du Monde des clubs. Elle est calée, elle est vendue aux Chinois, elle est prévue du 17 juin au 4 juillet 2021.
Et elle plaît beaucoup aux clubs européens.
24 équipes, avec 8 équipes européennes. On ne sait encore pas exactement lesquelles. Ça pourrait être les 4 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, les 4 derniers vainqueurs de l'Europa League. Cette jolie compétition, elle est calée, elle a ses dates, elle a son lieu, elle a tout. Mais l'UEFA et le CA n'en veulent pas de cette compétition. Mais non.
Donc là, ils ont le prétexte rêvé pour
donc,
la torpiller.
Ils peuvent se dire, voilà, 4 forces majeures, on sort la carte virus. On ne peut pas jouer l'Euro 2020 en 2020, on le joue en 2021. Et désolé Gianni, ta compétition, tu la remballes. Gianni, c'est Infantino, le président de la FIFA. L'UEFA et la FIFA ont toujours, c'est historique, des relations très mauvaises. Aujourd'hui, Gianni Infantino et Alexander Seferin, comme hier Platini et Blatter, on, même quand on est amis au début, à la fin, on arrive forcément parce que les intérêts sont divergents. Donc il y en a un qui contrôle l'Europe, l'autre qui contrôle le monde, un qui contrôle les clubs, l'autre qui contrôle surtout la Coupe du Monde. Donc pouvoir installer l'Euro 2020 en 2021, ça serait formidable au niveau de l'UEFA et de l'ECA. Mais premièrement, Infantino l'a encore pas entendu sur le sujet. Donc aujourd'hui, on se dit ah bah oui, ça serait bien, mais la FIFA, je pense, ne serait pas d'accord. La FIFA est quand même maîtresse du calendrier. C'est pour ça que mardi.
Il n'y a pas d'autres compètes, Copa América, Cannes.
Alors, la Copa América, elle a lieu cette année sur les dates de l'Euro.
Cette année.
Calée 12 juin, 12 juillet, normalement.
C'est elle est maintenue, la Copa América?
Cette année?
Ouais.
Et c'est pas sûr qu'évidemment, elle est dans la même
situation
que nous.
Ouais. Ah non, mais attends, Copa América, vous dites ça. Si la Ligue des Champions se termine au mois de juin, des mecs comme. Et que des gars comme Neymar, des Argentins, des Brésiliens, ils vont pas en équipe nationale, du coup.
Bah, tout ça est lié, effectivement.
Sauf ce sont les dates FIFA. Et auquel cas, les dates FIFA, t'es obligé de libérer tes joueurs.
Non, mais la Copa América, faut imaginer est-ce qu'elle pourra avoir lieu cette année?
Pour l'instant, elle n'est pas encore reportée.
Non, mais rien n'est reporté. L'euro n'est pas reporté non plus. On en est.
Cela dit, sur Neymar, j'ai Jérôme qui me dit, mince, il va prendre 8 kilos pendant cette trêve, c'est con, il revenait bien. on verra ce qu'il fait en juin.
On peut imaginer que si la Confédération européenne reporte d'un an son événement, l'affiche de l'euro, la Confédération sud-américaine suivra, puisqu'il y avait quand même des avantages à ce que les dates concordent.
Mais à ce moment-là, le business sud-américain, c'est pas le même que le nôtre.
Oui, eux,
mais
ils ont intérêt à. D'ailleurs, des joueurs qui sont les clubs européens pour une grande majorité, même pour les joueurs de la Copa América, on peut imaginer que les confédérations ont intérêt à se mettre d'accord.
Mais là, les négociations, c'est entre l'UEFA et la FIFA, et là, ça va pas être simple non plus. Hein. Ça va être très compliqué. Remettre un euro qui était prévu cette année. 2021, on se dit comme ça dans les discussions, je l'ai dit aussi là ces jours, ah oui, ça serait formidable, on finit les Coupes d'Europe un peu plus tard, l'Euro...
Oui, bon, ça a l'air trop simple pour être...
Il suffit de remplacer
facile,
2020
en fait.
Par 2021, tout ouais. est simple et tout ça. Mais non, c'est pas si simple du tout. Il y a encore une donnée qui rend les choses encore un peu plus compliquées. C'est la Coupe du Monde au Qatar. Coupe du Monde au Qatar, elle a lieu, vous le savez, du 18 novembre au 21 décembre, du 21 novembre au 18 décembre 2022. L'idée, c'était de se dire, le championnat 2021-2022, on va commencer à le décaler, On va décaler sur 2 ans pour pouvoir laisser une plage assez large en novembre-décembre 2022 pour qu'il puisse y avoir la Coupe du Monde. Mais 2021, si soudain on installe l'euro, ça va être moins compliqué. Ça va être soudain plus compliqué. Enfin, il y a des gros problèmes de calendrier. Et les maîtres du calendrier, c'est quand même la FIFA. Donc, faut quand même, au niveau de l'UEFA, va falloir aller frapper à la porte à Zurich pour demander à Infantino de négocier. C'est pour ça d'ailleurs que les 55 fédérations européennes sont conviées à la discussion mardi. Parce que 55 fédérations, c'est environ un quart de la FIFA. Et les fédérations sont membres de l'UEFA, mais aussi membres de la FIFA. Et donc, il y a un quart de la FIFA là, qui va être présent à cette discussion. Donc ça, c'est important politiquement, je pense.
Merci Dominique d'être venu nous complexifier la situation.
rien n'est simple.
Nous, on avait mis un an là, il nous a mis à 3 ans. Et...
Oh mon Dieu, le
ouais.
Mais ceux qui vous font croire que c'est simple, c'est des gens qui... Voilà. Si vous avez compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. Voilà,
dans un euro à 12 pays, c'est non, ça
il est vrai, ça c'est un truc très français d'ailleurs. En fait, il suffit que 2-3 décideurs appellent 2-3 autres décideurs ou influenceurs et disent, vous en faites pas, de toute façon, ce qui se trame, c'est que l'euro va être reculé d'un an. Puis tout le monde acte le truc comme si c'était, comme si c'était déjà, en fait, finalement, décidé, quoi. Alors que, pas du tout, ce que tu nous expliques, c'est incroyablement plus complexe.
C'est plus complexe. Voilà. Et puis il y a le virus là-dessus, qui, lui, il y a Gianni Infantino, maître du calendrier, et puis il y a le virus, c'est maître du calendrier.
C'est ça, parce que le match d'ouverture de l'euro, il est prévu à Rome, sauf erreur de ma part.
Turquie, Italie.
Et
le 12 juin.
Et l'Italie avait déjà annoncé que, il y a plusieurs semaines, que la tenue de ce match d'ouverture à Rome était déjà incertaine. Donc, on imagine que c'est déjà, déjà très compliqué.
Ça veut dire que là, déjà, tu as la justification pour reporter l'euro.
Oui, c'est pour ça que ça paraît inévitable.
Le fait que le match d'ouverture soit à Rome, c'est pas anodin, quoi.
Oui, et bien parce que Dominique le rappelait tout à l'heure, là on part sur l'hypothèse qu'on va reprendre les championnats mi-avril, parce que là pour l'instant ça a été suspendu. Ceux qui ont donné une date, c'est le 2, 3 ou 4 avril minimum. La France et l'Italie n'ont pas donné de date minimum de reprise et on s'oriente visiblement vers un report deux fois plus long au minimum.
La situation évolue tellement vite. Regardez, là, oui. On dit Rome, mais Rome au mois de juin, on ne sait pas ce que sera Rome au mois de juin. Ce soir, ils ferment les bars à Madrid. Il y a une semaine à Madrid, en Espagne, on ne parlait encore pas du virus.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, les bars sont fermés à Madrid. Donc, je veux dire, la situation à Rome le 12 juin, c'est impossible à décrire et à définir.
Dans quelques instants, on revient pour continuer le débat ensemble. Le 32-16 est ouvert hein, et Dominique reste encore avec nous, donc si vous avez des questions à poser à Dominique, si vous avez tout compris je sais pas hein, si vous êtes un spécialiste des arcanes de la FIFA et de l'UEFA, venez hein, on vous attend au 32-16. Nous, on va continuer d'essayer de détricoter un petit peu tout ça ensemble dans l'after. On est là jusqu'à minuit, ensuite on démarrera notre grand tour d'Europe avec les drôles de l'âme. À tout de suite.
RMC 21h30,
l'after foot, Gilbert Bribois.
22h43, l'after est là jusqu'à minuit. Damien Perinel, Simon Dutin, Daniel Riolo et Dominique Courdier avec nous, donc de News Tank Football, donc qui est dédié au club, hein, on l'a bien compris. C'est pas pour le grand public, malheureusement, les conseils de Dominique Courdier. Mais enfin, que voulez-vous, peut-être une version nouvelle bientôt. Bon, en tout cas, c'est intéressant, évidemment, d'avoir Dominique pour décrypter les arcanes de ces grandes raouts et de ces grandes réunions de dirigeants du foot européen. Revenons à la France. Ce matin, réunion, donc conseil extraordinaire à la Ligue. On connaît à peu près les influences. On a beaucoup parlé de Jean-Michel Aulas tout à l'heure. On connaît Didier Quillot qui est venu plusieurs fois dans l'after. Aujourd'hui, qui sont les présidents les plus écoutés?
Alors, disons qu'aujourd'hui, la leçon de ce matin, ça montre le poids de Noël Le Graët.
Ah,
parce que hier, il faut bien voir qu'il y a eu le discours du président de la République entre 20h et 20h27. Et que la dépêche de la Fédération française, elle est à 22h16. À 22h16, Noël Le Graët annonce on arrête tout au niveau
donc
de la Fédération française.
Donc, ça, c'est lui qui prend l'initiative. Il a consulté son vice-président, tout ça, son comité.
Et la Ligue se retrouve à la traîne et convoque, à peine plus tard, dans la soirée aussi, un conseil d'administration par téléphone qui s'est déroulé donc, ce matin, où ils sont un peu à la remorque de la Fédération. Ils prennent acte de la décision. Évidemment, comme on gèle tout le football amateur...
Est-ce que Le Graët n'a pas un petit peu doublé Quillot, en fait?
Disons qu'il a montré que c'était lui le patron.
Ah, c'est à dessein, donc.
C'est, ah bah il, non, il, oui, bien sûr, il est le patron, et il est, bien sûr, bah
il entend. Il a réagi plus vite, effectivement. C'est assez voilà, aberrant qu'on
voit. Il a, voilà, il a un vrai sens politique.
Bah, ce qui se murmure, c'est qu'il a peut-être reçu un coup de fil aussi, peut-être de la ministre des Sports ou voire de plus haut pour lui dire, bon, vous les gars, le foot, là, faut arrêter.
Oh. Non, mais c'est pas, faut pas oublier comme que la Fédération française de foot, c'est la plus grosse fédération sportive de France.
Voilà.
Et que ce serait
toutes
pas
les fédérations
illogique.
Sont alignées aujourd'hui. Voilà. Hein,
tout bah, attention, monsieur Dominique, hier, nous on était en direct. Hier,
ce matin, un tournoi de tennis annulé.
Non, pas ton Jean-Michel Aulas. Hein.
J'ai reçu le SMS au moment où j'enfilais le survêt.
Ah zut.
Merde.
Oh. Ce qui est intéressant, c'est que dans le communiqué de la Fédé hier, la Fédé ne faisait pas mention du foot pro.
Non.
La Fédé disait les activités de la Fédération française de football.
Oui, bien sûr. Bah, c'est politiquement c'est très bien parce que la fédération délègue quand même la gestion du foot professionnel à la Ligue de football professionnel. Donc elle s'occupe du foot pro, annonce que le foot amateur, annonce que il y aura aucune activité et évidemment que la Ligue est obligée mais montre qu'elle est un peu à la traîne. Voilà, donc elle prend la décision qu'on attendait qui est logique. Ce soir, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a aucun championnat du top 5 européen. Oui. Qui ne joue ce week-end. Donc, c'est une solution assez logique. Didier Quillot, lui, n'était pas sur cette ligne.
Hein. Il voulait du huis clos dans un premier temps.
Il voulait du huis clos. Ouais. Il voulait du huis clos et il voulait se battre pour que son championnat se dispute coûte que coûte, avancer coûte que coûte.
Autre tendance forte, quand même, hier, et qui s'est confirmée aujourd'hui, c'est que l'UNFP, quand même, qui pèse, voulait l'arrêt. Et les joueurs, les porte-paroles dans les clubs et tout, sont à peu près tous montés au créneau en disant non, maintenant stop, l'UNFP. Et en reprochant d'ailleurs à l'UNFP un peu un retard à l'allumage. Les joueurs disent attends, vous faites quoi les gars là ? Donc là, dans les bon,
ils ont publié, on l'a publié d'ailleurs le communiqué de l'UNFP hein, qui disait effectivement priorité à la santé, on peut pas dire autre chose. Et arrêtons. L'UNFP l'a dit et s'est félicité aujourd'hui, j'ai vu, de la décision.
Alors, je reviens à la Ligue. Bon, ce matin, en fait, ce matin, ça a été en chambre d'enregistrement, finalement.
Oui, la décision était hier, était prise. Lorsqu'ils ont annoncé que le conseil d'administration était convoqué, on connaissait la décision.
Voilà. Hein. Bon. Aujourd'hui, là, on va se pencher sur la suite. On a entendu Jean-Michel Aulas faire sa première proposition. L'after a dit ce qu'il en pensait. On va pas y revenir. Quels sont les hommes d'influence aujourd'hui qui peuvent faire contrepoids ou alors qui peuvent appuyer Aulas voilà, quels sont vraiment les mecs qui comptent là?
Bah, vous les connaissez. Vous les connaissez. Bon, ce sont les grands clubs. Hein, c'est évidemment.
Non, mais alors, les grands clubs, mais c'est vrai, un gars comme Cayazo, par exemple, qui n'est pas un grand club, il ne représente pas un grand club aujourd'hui. Mais on sait qu'il a une influence forte.
Il est président de Première Ligue.
Oui.
Il est président, mais il n'est plus. Il est président du syndicat, donc il n'est plus président, il n'est pas président du collège de Ligue 1. Alors le collège de Ligue 1, c'est la réunion des 20 clubs de Ligue 1. Hein.
Et oui, mais on dit toujours.
Et Aulas a battu, c'est pas complètement anodin. Aulas a battu Cayazo dans l'élection pour la présidence du collège de Ligue 1. Donc depuis l'an passé, c'est Aulas le président du collège de Ligue 1.
Mais on sait.
Ça c'est vachement important.
Ça c'est important.
C'est Aulas et le président des présidents, quelque part.
Et le président des présidents. Voilà. Alors qu'il n'est pas, c'est peut-être compliqué pour les téléspectateurs, mais il n'est pas au conseil d'administration de la Ligue parce qu'il est à la fédération et qu'on ne peut pas être aux deux.
Ouais.
Donc il est à la fédération, mais il est président. Et en plus.
Ce qui, politiquement, pour lui, est très bien joué parce qu'il a un pied dans chaque, ce qui lui permet d'avoir.
Et en plus, il a la légitimité due à son ancienneté, à son palmarès, à son stade, donc il a vraiment une très grande légitimité, donc c'est un homme qui compte, évidemment.
Mais on sait que au sein de la Ligue, souvent ça a été dit, pas officiellement, mais qu'il y a des présidents qui ont une voix, qui comptent, et qui s'intéressent à toutes les affaires du foot, et que d'autres, bon, sont un peu centrés sur la vie de leur club, mais finalement, ce qui se passe à Paris, même quand ils y viennent, bon, ils s'en foutent un peu, quoi. En gros, des présidents qu'on peut, des présidents pratiquement dormants, qui le matin vont dire ah ouais, toi tu dis qu'on fait ça, bon, moi je vote avec toi.
Le meilleur exemple de ça, Daniel, c'est la Coupe de la Ligue.
Oui, on l'a raconté. C'était à ce moment-là qu'on disait
où
ça.
Il y a plein de gars qui étaient contre et puis ils ont voté pour la suppression.
Voilà.
Et puis
le lendemain du vote, ils se sont réveillés en disant ah mais non, mais nous on voulait qu'elle continue. Mais oui, mais quand on a posé la question, on était à la pêche ou en gros, on ne sait pas. Donc, il y a vraiment des présidents qui sont là tout le temps, qui s'intéressent à toutes ces questions-là, et il y a des suiveurs.
Comment
tu expliquerais ça ?
Non, mais la critique que je ferais,
c'est moins des présidents dormants, parce que c'est quand même souvent des hommes d'affaires, c'est souvent des gens qui sont surbookés, dont le foot est des fois la deuxième, voire la troisième activité. C'est pas tous des salariés style héros à Marseille, par exemple. Hein, c'est des gens qui ont d'autres activités. Le reproche que pourrait faire aux dirigeants français, c'est une gestion individualiste. Ils n'ont pas assez la notion du collectif.
Ah ça.
Ils ne placent
ça,
pas.
Je suis content que tu le dises.
Ils ne placent pas
drame.
Le produit.
C'est un drame pour notre football.
Ils ne placent pas le produit Ligue 1 au-dessus de leurs intérêts.
Oui. À la différence de ce qui se fait en Première Ligue, par exemple.
Ou en Allemagne.
Ou surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, alors.
Modèle différent.
Modèle complètement différent, mais où le championnat, où la Ligue 1, si c'était la Ligue 1 aux États-Unis, serait bien au-dessus. On fait partie d'un spectacle, on fait partie d'une organisation et on est membre de cette organisation. Là, c'est un peu chacun qui tire son, et ça affaiblit le football français.
Alors, il nous reste quelques minutes. Je repasse maintenant à l'UEFA. Pourquoi ? Parce que donc Aulas sera présent à la réunion mardi, on l'a dit. Nasser Al-Khelaïfi, actif. Ou plutôt dormant, comme le définissait Daniel, au niveau européen là.
Alors, ce qu'on entend dire, je ne voudrais pas dire du mal du président du Paris Saint-Germain, qui est par ailleurs abonné à mon agence, donc ça me gênerait. À la Ligue, il est peu souvent là, et lorsqu'il est là, il est souvent en train de faire autre chose.
Ah, moi, je pensais que ces derniers temps, il s'était occupé, notamment qu'il avait pris Victoriano Melero pour ça.
Nasser, nous, quand on parle de lui sur notre agence, on publie à chaque fois sa fiche biographique. Et c'est l'homme, dans tout notre registre, c'est l'homme qui a le plus de fonctions cumulées.
Oui, c'est beaucoup trop.
C'est incroyable.
Oui, il peut pas faire.
Il est membre du gouvernement qatari. Il est président de la Fédération asiatique de tennis.
Oui. Il est plus prof de tennis, ça libère du temps.
Il est à l'ECR, il est président, il est président d'une chaîne. Il est président d'un club.
Il a
12 ou 13 fonctions cumulées. Donc il est membre du conseil d'administration, il est membre du comité exécutif de l'UEFA, je l'ai dit, il est membre du comité directeur de l'ECA, l'association des clubs européens, il est au conseil d'administration de la Ligue, mais peu souvent là, et puis quand il est là, il est souvent en train de faire
des SMS. Parce qu'il est en train de cumuler des mandats.
Voilà, alors là, sans doute.
Mais justement, je pensais qu'il avait
des représentants, en revanche,
il avait pris Melero pour gérer toutes ces affaires-là.
Voilà, Victoriano Melero, par exemple, qui est secrétaire général et qui lui, connaît bien les dossiers.
C'est un ancien de la Fédé et qui est là justement pour régler tous les problèmes Ligue-Fédé.
Voilà, exactement. Ouais. Et évidemment, le Paris Saint-Germain.
Oui, donc, en gros, ce que tu dis, c'est que, vu tout ça, il ne peut pas maîtriser les dossiers sur le bout des doigts.
Lui, personnellement, non.
Non, mais il a pris un mec pour faire ça. Et c'est un mec qui a beaucoup d'expérience. Mais
voilà, le club est quand même suffisamment structuré pour avoir des gens qui puissent intervenir.
Aulas, au niveau européen, il met les pieds dans le plat comme il le fait à l'échelle de la France.
Il a mis
les pieds dans le plat pour qu'il n'y ait que deux clubs.
C'est quelqu'un de très écouté. C'est quelqu'un de très écouté, de très respecté.
Bon, ils l'ont bien roulé dans la farine avec le 2+1 à l'époque.
C'est quelqu'un quand même qui est très respecté.
Non mais d'accord.
Il a son âge d'ailleurs. Il a 70 ans.
Mais il est respecté. Mais à l'époque, il s'est fait un peu le 2+1. Il est pas ressorti grandi de sa affaire.
Oui, mais le 2+1. Alors c'est la France qui c'est pas rien qu'Aulas là. C'est la France qui s'est fait rouler dans la farine au moment où nos quatre grands voisins ont obtenu 4 places en Ligue des Champions.
C'était lui le représentant. C'est lui qui est allé négocier là-bas.
Si on avait eu un président de la Fédé qui soit membre du comité exécutif de l'UEFA, les choses auraient peut-être tourné différemment. Ouais. C'est compliqué. Hein.
Bon, en tout cas, c'était passionnant. Merci, Dominique.
C'est un plaisir.
Tous ces éclairages.
C'est un plaisir.
Bon, moralité, rien n'est simple. Vous l'avez compris. Et ne pensez pas que l'euro, sur un claquement de doigts, va être reporté d'un an. C'est ce que je retiens principalement de la discussion.
Mardi. Et tu penses qu'on aura des mardis soir? On saura quand même beaucoup de choses.
On saura des choses mardi, puisque la Ligue, d'ailleurs, a prévu de se réunir dans la foulée pour prendre des décisions qui dépendront de ce qui sera décidé à Lyon.
Donc mardi soir dans l'after,
voilà, on saura.
Quelles décisions peuvent influencer la Ligue alors, justement, par exemple?
L'annulation, pas l'annulation.
Par exemple,
l'euro, c'est le point central.
L'euro 2020, si
c'est le premier domino qui va entraîner les autres.
Si on décale tout, les gens imaginent, voilà, ce qui devait se jouer en avril se joue en mai, ce qui devait se jouer en mai se joue en juin, et ce qui devait se jouer en juin ne se joue plus. Si on a un scénario un peu comme ça, c'est sûr qu'au niveau national, ça peut permettre de se dire, bon, en démarrant un championnat dans un mois, on met les joueurs en vacances et puis on redémarre.
Bon. Oui. Comment on peut faire pour être invité en douce à la visioconférence?
C'est difficile. C'est difficile.
On peut pas se connecter de la maison, quoi.
Merci Dominique Courdier, merci. À très bientôt dans l'After. Nous, on continue. On va partir en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne dans quelques minutes, d'ici minuit, pour voir comment la situation évolue là-bas, ce qui se dit également sur la suite, bien sûr. Et on vous attend au 32-16 pour débattre avec nous tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot. Gilbert Bribois.